Daf Zayin Amud Bet, en bas du Hamoud, deux points. Tanou Rabanan, on enseigne à Breta, En Botkin, Lo Leor Hachama, Velo Leor Alevana, Velo Leor Avuka, et la Leor Haner. On ne fit pas la Bdikat Hametz ni à la lumière du soleil, ni à la lumière de la lune, ni à la lumière d'une torche, mais seulement à la lumière d'une lampe, d'une bougie. Mais Pnei Sheor Haner y a fait la Bdika parce que la lumière de la bougie, c'est ce qui est le mieux pour l'abdika. Et même si on n'a pas de preuve formelle à ces choses-là, il y a une allusion à ça, chez Nehemar, parce que c'est écrit dans le Passouk, donc c'est la même preuve que l'agma avait déjà rapporté plus haut. Shivat yamim seor lo imatze bevatechem, veomer vaychapes bagadol echel, veomer ba'et ayi achapes et Yerushalayim benerot, veomer nerachem nishmat adam, chofes kol chadri batel. L'agma demande à Yor Hachama Echidami. Quand on parle ici de la lumière du soleil, de quoi il s'agit? Inima bechatzer, s'il s'agit de faire la bdikat hametz de la cour, donc rechercher le hametz qui se trouverait éventuellement dans la cour à la lumière du soleil, puisque la cour est exposée au soleil. Amarava, chatzer enatra bdikam, pnechorvi metsuim shal. Mais pourtant, Rava a dit que on n'a pas besoin de faire la bdikat hametz dans la cour, parce qu'il y a des corbeaux là-bas qui mangent le hametz qui s'y trouve, donc c'est sûr qu'il ne reste pas de hametz. Et la Bersadra, alors il faut dire qu'il s'agit d'une Arsadra, c'est-à-dire un endroit qui est couvert, mais qui a un côté qui est complètement ouvert, donc il y a beaucoup de clarté qui rentre à l'intérieur, le soleil rentre à l'intérieur. Amar Rava, Arsadra le Oranif Deket. Pourtant Rava a dit que on peut faire l'abdika de la Arsadra à sa propre lumière, on n'a pas besoin d'utiliser une bougie. Alors il y a une marloquette ici entre les Rishonim, qu'est-ce que ça veut dire? Certains disent, Rashi semble vouloir dire que on peut même les Khatrila faire l'abdika de la Arsadra à la lumière du jour, donc avant la nuit du 14 Nissan, mais d'autres Rishonim pensent, et c'est comme ça que le Shulchan Aruch est posek, que c'est seulement dans le cas où on n'a pas fait l'abdika la nuit du 14 Nissan, et qu'on fait alors l'abdika le matin du 14 Nissan. Les autres endroits, il faut utiliser quand même une bougie pour faire l'abdika, même si on fait l'abdika de jour, mais dans la Arsadra, puisqu'il y a beaucoup de lumière, beaucoup de clarté qui rentre de la lumière du jour, donc on n'a pas besoin d'utiliser de bougie quand on fait Bediava de l'abdika le 14 Nissan. Donc, en tous les cas, Agmara dit, il ne peut pas s'agir de ce cas-là. L'otzricha l'aruba de Bacheder. Agmara dit, non. Quand la Braïta a dit que on ne peut pas faire l'abdika à la lumière du jour, il s'agit d'une chambre dans laquelle il y a une lucarne. Ou des hecha. L'agmara demande, mais où est-ce qu'on va faire l'abdika? Il est bas des aruba à Inu Arsadra. Si c'est à l'endroit qui est face à la lucarne, donc où le soleil éclaire directement, donc c'est la même chose qu'une arsadra. Et on parle du cas ici, comme les poskim le disent, du cas où il n'y a pas de vitre, parce que s'il y a une vitre, ça retient une partie de la lumière. Donc s'il n'y a pas de vitre, donc en face, ça reçoit directement la lumière du jour. Donc effectivement, on n'a pas besoin d'utiliser une bougie. On peut faire l'abdika à la lumière du jour. Et là, l'itzdadin. Mais donc l'agmara conclut qu'on parle forcément sur les côtés qui ne sont pas directement éclairés par la lucarne, ou c'est pareil d'ailleurs pour une fenêtre, les endroits qui sont face à la fenêtre, s'il n'y a pas de vitre, si la fenêtre est ouverte, on peut faire l'abdika sans utiliser de bougie, mais sur les côtés, puisque ça ne reçoit pas directement la lumière du jour, donc là il faut utiliser une bougie. L'agmara demande Vavuka l'eau, est-ce qu'on peut pas faire la... On a dit dans la Braïta qu'on peut pas faire non plus l'abdika avec une torche, à la lumière d'une torche, et l'agma s'étonne, a dit, on peut pas faire l'abdika à la lumière d'une torche. Ve'ama Rava, pourtant Rava a dit, Maïdirti Venoga Kaor Tihie. Que signifie le pasouk qui dit Venoga Kaor Tihie? Ça veut dire que la lumière du monde futur sera comme la lumière de la création du monde. Karnaï Miyado Lo. Et il y aura des rayons de lumière qui viendront d'Akadosh Baruch Hu et qui se reflèteront sur le visage des tzadikim, Vesham Chevion Ouzo, et la force de la lumière se trouvera chez Akadosh Baruch Hu, donc c'est de là-bas que provient la lumière et que se trouve toute la force de la lumière. Et Rava explique, les mat tzadikim domim bifne shrina, à quoi les tzadikim ressemblent devant, comparé à la shrina, kener bifne avuka, c'est comme une lampe par rapport à une torche. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu Kivyachol, c'est la torche, c'est-à-dire c'est la lumière puissante, alors que les tzadikim, c'est une lumière moins forte qui est comparable à celle d'une lampe. Donc on voit que une torche c'est plus fort qu'une lampe. Et donc si on peut faire l'abdika avec une lampe, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas faire avec une torche qui a encore plus de lumière? Ve'amar Rava, et Rava a également dit, Avukale Avdala Mitzvah Mina Mufra, que pour faire l'Avdallah, c'est mieux d'utiliser une torche. C'est pour ça qu'on utilise pour l'Avdallah deux mèches, qui au bout, hein, deux mèches, à partir de deux mèches, ça s'appelle déjà une avoukat, ça s'appelle une torche. Donc c'est une mitzvah minamoufra. C'est mieux de faire la bracha de Borei de l'Avdallah sur une torche. Donc on voit qu'une torche, ça donne plus de lumière. Donc pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire la bdika avec? Amar Nachman Bar Yitzchak, Nachman Bar Yitzchak répond: Zeh yachol achneso lechorod mizdakin, vezeh eino yachol achneso lechorod mizdakin. La différence, c'est qu'une torche, justement, comme une lampe, comme c'est petit, donc on peut la rentrer dans les trous et les fentes pour rechercher le Hametz Sabah, alors que la torche qui est trop grande, on ne peut pas la rentrer dans les trous et les fentes, et donc on ne peut pas rechercher efficacement le Hametz dans ces endroits-là. Rav Zvid donne une autre réponse. Il dit: Zeh oro lefanav, vezeh oro leacharav. La lumière de la lampe, ça éclaire devant, alors que la lumière de la torche, ça éclaire derrière. Ça veut dire que ça éclaire mieux à l'arrière de la personne que à l'avant, parce que ça éblouit. Rav Papa Amar, Hay Bayit Vay Lo Bayit. Et Rav Papa dit que la différence entre la torche et la lampe, c'est que la torche, on a peur que ça prenne feu, que ça enflamme la maison, et donc on est préoccupé par ça. Et on n'est pas concentré sur la recherche du Hametz, alors que pour la lampe, on n'a pas peur, donc on peut être concentré sur la recherche du Hametz. Ravina Amar, Ravina donne une autre explication, il dit: Hay Mashach Neora, Vay Miktaf Ektufe. La différence, c'est que la lampe, elle a une lumière continue, alors que la torche, la lumière, elle sautille, c'est pas une lumière qui est continue, et donc c'est moins efficace pour l'abdicat Hametz. Kol makom shen machnissin vechule. On a dit dans la Mishnah que tous les endroits où on ne rentre pas de Hametz, on n'a pas besoin de faire de bdika. La Gemara demande: Kol makom leatuyemai. Qu'est-ce que la Mishnah vient inclure quand elle dit Kol makom? Ça vient forcément inclure quelque chose. Qu'est-ce que ça vient inclure? Leatuyeh had etanu rabbanan. Ça vient inclure ce qu'on enseigne à la Braïta. Chore bayit haelyonim vatartonim. Donc les trous qu'il y a dans les murs de la maison, soit ceux qui sont en hauteur, soit ceux qui sont bas. Et donc ils sont pas faciles à utiliser. Donc ça, on n'a pas besoin de leur faire l'abdika parce que justement, ils sont difficiles d'accès. Vega Gayatsia et pardon, le toit de l'appentis. Donc Yatsia, c'est une sorte de petite construction qui est attenante à la maison et qui a un toit en pente. Et justement, parce que elle a un toit en pente, donc on ne peut pas poser des objets dessus. Donc même si c'est à une hauteur qui est accessible. Mais comme c'est en pente, donc on ne pose pas de choses dessus, donc on n'a certainement pas posé de Hametz dessus, donc on n'a pas besoin de faire de bdika. Alors, les Rishonim expliquent, certains Rishonim, c'est ce que le Shulchan Aruch dit également, que quand on parle ici de l'appentis, on parle d'une construction qui serait à l'intérieur, parce que si c'est à l'extérieur, de toutes les façons, on n'a pas besoin de faire de bdika, comme on l'avait vu plus haut, parce que les oiseaux mangent le Hametz s'il y en avait. Donc, on parle ici de quelque chose qui est à l'intérieur de la maison, une petite construction qui sert à un endroit où on range les outils, mais qui est à l'intérieur de la maison. Donc, on n'a pas besoin de faire l'abdika du toit parce qu'il est en pente. Vega Gamigdal est le toit d'une armoire. Alors là, il y a deux explications. Soit que c'est une armoire qui est haute, donc on ne pose pas de Hametz sur le dessus, on n'utilise pas le dessus de l'armoire. Et donc, il faut vérifier seulement l'intérieur de l'armoire, soit parce que là aussi il s'agit d'un toit qui est en pente. Vérifet Bakar et une étable. Dans une étable, s'il y avait du Hametz, les animaux le mangeraient. Velouline et les poulaillers, pareil. S'il y avait du Hametz, les poules l'auraient mangé. Umatben et un endroit où on met de la paille et donc on n'a pas de raison d'avoir mis du Hametz là-bas. Veotsot Yain, Veotsot Shemen, Entrichim. Et des entrepôts de vin ou des entrepôts d'huile. Donc tous ces endroits, on n'a pas besoin de faire l'abdika, les entrepôts de vin et les entrepôts d'huile, parce que il n'y a pas de raison qu'on ait rentré du Hametz là-bas. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon ben Gamliel dit: Mita choleket betoch habayit umafseket, un lit qui divise la maison en deux, c'est-à-dire qui divise la chambre en deux. Donc pourquoi est-ce qu'on parle d'un lit qui divise la chambre en deux? C'est pour dire que ce lit se trouve au milieu de la pièce et il se trouve pas contre un mur. S'il était contre un mur, là, on n'a pas l'habitude d'utiliser le dessous du lit, de mettre des choses en dessous, donc on n'a pas besoin de faire de bdika du Hametz là-bas. Mais là, comme le lit est placé au milieu de la pièce, donc on a peut-être mis des choses en dessous, donc peut-être du Hametz, Oumafseket, quand on dit Oumafseket, ça veut dire que il y a un espace entre le sol et le sommier du lit, donc on peut poser des objets en dessous. Tzicha Abdika, donc il faut faire l'abdika en dessous de ce lit. Urminu, l'agma objecte, Chor Sheben Adam Lachavero, quand il y a un mur, quand il y a un trou dans un mur qui est entre une maison et une autre. Donc il y a un mur qui est mitoyen à deux maisons. Et il y a un trou dans ce mur qui va de part en part, qui traverse le mur de part en part, donc c'est-à-dire qui est accessible des deux côtés par les deux habitants. Zebodek admakom shiado magat, zebodek admakom shiado magat. Chacun vérifie jusqu'à l'endroit qui lui est accessible. Vache arme et vatlo belibo. Et le reste du trou qui est entre les deux, qui n'est pas accessible ni par l'un ni par l'autre, mais peut-être qu'il y a du hametz qui a roulé là-bas, c'est-à-dire qui a été posé d'un côté ou de l'autre et qui finalement a roulé plus loin à l'intérieur et maintenant est inaccessible, il suffit de faire le bitoul, puisque de toutes les façons il est inaccessible, donc on n'a pas besoin d'aller le rechercher, mais simplement de faire le bitoul. Rabban Shimon Gamliel Omer, Rabban Shimon Gamliel dit, Mita choleket betor habayit, ve'etzim va'avadim sidurim tartea, umafseket. Si on a un lit qui divise la pièce en deux, donc là aussi ce lit est placé au milieu de la pièce, et qu'il y a du bois et des pierres rangé en dessous, ou mafseket, et qu'il y a un espace entre le sol et le sommier, donc entre le bois et les pierres et le sommier, et natsrabdika, on n'a pas besoin de faire de bdika. Et l'agmara conclut, kashia mita mita, kashia chorin achorin. On a une contradiction du cas du lit qui est enseigné dans cette deuxième braïta par rapport au cas du lit qui a été enseigné dans la braïta précédente. Dans la braïta précédente, on a dit que il faut faire une bdika sous le lit. Alors que là, Rabban Shimon Gamliel a dit qu'on n'a pas besoin de faire de bdika sous le lit. Et il y a aussi une contradiction du cas des trous qui a été enseigné dans la première braïta où on a dit qu'il faut faire une bdika à chacun jusque... pardon, dans la première braïta, on a dit que on n'a pas besoin de faire de bdika dans les trous de la maison qui sont en haut et en bas. Alors que dans la deuxième braïta, on a dit qu'il faut faire une bdika chacun jusque là où là où c'est accessible pour lui. Agmara répond chorin à chorin la kashia. Il n'y a pas de contradiction du cas des trous de la première braïta avec le cas des trous de la deuxième braïta. Ah ben il a eu tatae. La première braïta a parlé des trous qui étaient en hauteur ou qui étaient bas, donc qui étaient difficiles d'accès, donc qu'on n'utilise pas. Vea bemitzeh, alors que la deuxième braïta parle de trous qui sont au milieu, c'est-à-dire qui sont à une hauteur qui est facilement accessible et donc on les utilise. Mita mita la kashia. Il n'y a pas de contradiction non plus du cas du lit de la première braïta avec le cas du lit de la deuxième braïta. Hademidalia, hademitatae. Dans la première braïta, on parle du cas où le lit est haut, et donc on peut utiliser en dessous, donc certainement qu'on l'a utilisé, on a peut-être mis du hametz là-bas, donc il faut faire la bdika. Alors que dans la deuxième braïta, on parle du cas où il y a peu d'espace entre le bois, les bois et les pierres et le sommier du lit, et donc probablement qu'on ne l'a pas utilisé, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait de Hametz là-bas. L'agmara s'étonne et demande votre fortianine enserfdika. On a dit dans la première baïta que les entrepôts de vin, on n'a pas besoin de faire de bdika. Vatania, pourtant dans la baïta, il y a une autre baïta qui dit votre fortianine tsarifdika, votre shemen enserfdika. Si c'est un entrepôt de vin, il faut faire la bdika, mais un entrepôt d'huile, on n'a pas besoin de faire la bdika. L'agmara répond à bemistapek. Ici, de quoi on parle? Dans la deuxième braïta qui dit que les entrepôts de vin, il faut faire la bdika, c'est dans le cas où il est mistapek, c'est-à-dire c'est un entrepôt duquel il se sert, c'est-à-dire il se sert pour sa consommation quotidienne, et donc il est possible que le shamash soit venu avec un morceau de pain dans l'entrepôt de vin et qu'il ait oublié un morceau de pain là-bas. Alors que dans la première braïta, on parle d'entrepôts de vin qui sont entreposés à long terme, et donc qu'on n'utilise pas au quotidien, donc il n'y a aucune raison qu'on soit rentré là-bas avec du Hametz, il n'y a aucune raison qu'il y ait du Hametz là-bas. Agmara demande, et Achi Shemen Nami, alors si c'est comme ça, un entrepôt d'huile aussi, puisqu'il s'en sert pour sa consommation quotidienne, on devrait devoir faire, il faudrait faire la bdika. Pourquoi est-ce que la Braïta dit que l'entrepôt de vin, il faut lui faire la bdika, même pas l'entrepôt d'huile? Agmara répond, Shemen Yeshkeva l'Achila, Yain Enkeva l'Eshtia. L'huile, on a un principe que yesh keva la achila, c'est-à-dire que ce qu'on consomme, c'est une quantité qui est fixe, on connaît la quantité à l'avance, donc il n'y a pas de raison qu'on soit amené au milieu du repas aller devoir chercher de l'huile. Donc le shamash sait à l'avance combien d'huile il doit prendre pour le repas, Donc il vient avant le repas, il prend la quantité d'huile qui est nécessaire et il n'a pas besoin de revenir au milieu du repas. Alors que Yain Kevalchtia, que pour le vin, il n'y a pas de quantité fixe à boire. Il peut arriver parfois qu'on boive plus que d'habitude et donc qu'on soit amené à devoir chercher du vin au milieu du repas et qu'à ce moment-là, on a peut-être un morceau de pain dans la main. Donc c'est pour ça qu'il faut faire l'abdika de l'entrepôt de vin. Tane Rabbi Chia. Rabbi Chia enseigne une braïta qui dit Assu otsarot shechar bebavel ke otsarot yain beretz Israël bemistapek, que on a considéré les entrepôts de bière en Babel comme les entrepôts de vin en Eretz Israël, dans le cas où on s'en sert pour la consommation quotidienne. Donc ils consommaient de la bière en Babel comme on consommait le vin en Eretz Israël, donc ils étaient susceptibles d'aller en chercher au milieu du repas. Amar Frisda a dit Bedagim en tzarevdika, l'endroit où on entrepose le poisson. On n'a pas besoin de faire la bdika parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait du chametz là-bas. Agmara demande la tania tzrichin bdikam, pourtant c'est dans la braïta qu'il faut faire la bdika. Agmara répond la kashia, c'est pas contradictoire. Ha beravreve, ha bezoutres. Ce que Rav Chisda a dit qu'on n'a pas besoin de faire la bdika, c'est quand c'est des grands poissons. Et les grands poissons, on sait à l'avance la quantité qu'on va consommer, on peut l'estimer, et donc il n'y a aucune raison qu'on soit amené à en chercher au milieu du repas. Alors que la Braïta a parlé de petits poissons, et petits poissons, il peut arriver qu'on en mange une plus grande quantité, et qu'on soit amené à chercher au milieu du repas, à en reprendre dans l'entrepôt. Donc là, effectivement, on pourrait y aller avec un morceau de pain, donc il faut faire la bika. Amar Rabba Bar Avuna a dit, Bemincheh ou Bekireh tzarich bika. L'endroit où on entrepose le sel, et l'endroit où on se repose de la cire, il faut faire la bdika, parce qu'on peut être amené à chercher du sel ou de la cire pour les bougies pendant le repas. Amar Rav Papa a dit, Betsivé ou Betamré, tzarich bdika. L'endroit où on entrepose le bois et les dattes, il faut aussi faire la bdika, parce que là aussi, on peut être amené à chercher du bois au milieu du repas ou des dattes également. Tana, on enseigne à Breta, En mechaivin oto lechnis yado lechoron velizdakin livdok mipne asakana. On ne l'oblige pas. Donc la Breta dit qu'on ne l'oblige pas à rentrer sa main dans les trous et les fentes pour faire l'abdika à cause du danger. La Gemara demande Maï Sakana, de quel danger il s'agit ici? Inema mipne sakana takrav, si tu dis que le danger c'est un danger qui est des scorpions, ki mishtamesh et chrishtamesh. Alors quand il a utilisé ses trous pour mettre dedans du chametz éventuellement, puisque c'est la raison pour laquelle il faut faire l'abdika de ces endroits, comment est-ce qu'il aurait pu les utiliser s'il y avait vraiment un danger de scorpion? L'autre tzricha de nafal. Alors, en répondant, ici on parle du cas où le mur est tombé, et donc c'est pour ça que maintenant, dans un tas de pierres, là il peut y avoir des scorpions. Lorsqu'il a utilisé le mur était encore construit. Là, il n'y a pas de raison qu'il y ait des scorpions même à l'intérieur des trous, mais une fois qu'il s'est écroulé, il peut y avoir des scorpions, et s'il y avait du Hametz dans le trou, donc le Hametz se trouve dans ce tas de pierres, et malgré tout, il n'a pas l'obligation de rentrer sa main là-bas pour rechercher le Hametz, à cause justement du risque de scorpion. Agmara demande, Inafal, la malibdika. Mais s'il est tombé, alors il n'a même pas besoin de bdika. C'est pas qu'il faut faire une bdika, mais qu'on est dispensé parce qu'il y a peut-être des scorpions. Il n'y a même pas besoin de bdika. Maintenant, puisqu'on a assis dans la Mishnah, Hametz, Inafal, la vin polette, arrête de me voir. Que lorsque du chametz sur lequel est tombé une mapolette, un éboulement, c'est comme s'il était mévohar. On n'a pas besoin de le rechercher parce que c'est comme s'il avait été déjà éliminé. Donc c'est comme si ce chametz n'existait déjà plus. Donc on n'a même pas besoin de faire la bdika. Donc il n'est pas nécessaire de dire que c'est à cause des scorpions. Même sans les scorpions, de toute façon, le chametz est déjà considéré comme inexistant. Ma réponse, Atam Shen Akelev. Là-bas, quand on a dit que le chametz est considéré comme mévoir, comme inexistant, c'est quand un chien ne peut pas le rechercher, c'est-à-dire qu'il a une profondeur de 3 tfachim, comme on verra donc dans cette Mishnah, que on parle du cas où c'est dans une profondeur à une profondeur de 3 tfachim, et donc un chien ne peut pas le rechercher, là il est considéré comme mévoir. Alors que ici, on parle du cas où un chien peut encore le rechercher, donc il n'est pas considéré comme mévoir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une hauteur de 3 tfachim, et donc c'est pour ça que il est exempté seulement parce qu'il y a un danger de scorpion. Alors Tosfot pose la question, mais alors si c'est comme ça, là-bas, on comprend de la Mishnah qui dit que il est dispensé que dans le cas où un chien ne peut pas le rechercher. Donc, ça veut dire que dans le cas où un chien peut le rechercher, dans le cas où il n'y a pas 3 tfachim de profondeur, il n'est pas dispensé à cause des scorpions. Il a une obligation de faire de faire l'abdicat de Hametz. Et Tosfot de répondre que là-bas, effectivement, on parle du cas où on sait qu'il y a du Hametz, on est sûr qu'il y a du Hametz en dessous. Donc, s'il y a une hauteur de 3 tfachim, donc il est comme éliminé, donc on n'a pas besoin de faire d'obliqa. Mais s'il a une hauteur de moins de 3 tfachim, même s'il y a un danger de scorpion, il faudrait louer des employés qui utilisent des pioches et des pelles pour creuser et aller rechercher ce Hametz sans s'exposer au danger des scorpions. Alors qu'ici, on parle du cas où on ne sait pas s'il y a du Hametz. Il y a peut-être du Hametz, mais on n'a pas de certitude. Là, on est complètement dispensé à cause du risque des scorpions qui pourraient le piquer. Et d'un autre côté, on n'a pas d'obligation de louer des employés pour les sortir, pour ressortir le Hametz éventuel en utilisant des outils. Moi, demande, va Amar Rabbi Lazar, mais pourtant Rabbi Lazar a dit, Shluchei Mitzvah Enan Nizokin. Que Shluchei Mitzvah, ceux qui vont faire une mitzvah, il ne leur arrive pas de dommages, de dégâts. Donc comment ça se fait qu'on craint ici le risque des scorpions, puisqu'il fait une mitzvah de Bdikat Hametz, il devrait rien lui arriver. Amar Ravashi répond, Shema Tova de Lomachat, Vatele Yuna Bata. Peut-être que il a perdu, peut-être qu'il pourrait arriver dans un cas qu'il ait perdu une aiguille, qu'il a perdu une aiguille à cet endroit. Il risque de profiter de faire l'abdicat Hametz pour rechercher aussi cette aiguille. Donc il n'est pas en train de faire une mitzvah maintenant, il est en train en même temps de rechercher son aiguille. Et donc il ne sera pas protégé par par la mitzvah. Agmara demande Chia Gavna lave mitzvahou. Mais est-ce que dans le cas où le but de sa recherche est double, et de rechercher le Hametz, donc de faire la mitzvah, et de rechercher son aiguille, est-ce que ça ne s'appelle pas faire une mitzvah? Est-ce qu'il n'est pas aussi protégé par la mitzvah? Ve'atanea, pourtant ancien à Breita. A Omer, c'est là, Zo l'itzdaka bishvil shiyehye beni. Celui qui dit, je vais donner cette pièce d'un sela à la tzedaka, mais je le fais pour que mon fils vive, au shiyehye ben haolam haba, ou pour mériter l'olam haba. Arizé tzadik gamour, il est considéré comme un tzadik gamour, c'est-à-dire que cet acte est un vrai acte de mitzvah. Et on ne dit pas que c'est un acte qui est intéressé parce que il le fait pour soit pour que son fils guérisse, soit pour mériter le Olam Haba, malgré tout, puisque il le fait aussi pour la mitzvah et également parce qu'il espère en retirer un profit, ça s'appelle une véritable mitzvah. Alors Tosfot disent, mais pourtant on a dit dans Pirkei Avot que Altiu kavadim shamshim etarav almenat lekabel pras, qu'il faut pas servir à Kadosh Baruch Hu dans le but de recevoir une récompense. Alors comment ça se fait qu'ici on dit que s'il dit qu'il le fait pour mériter le Olam Haba, il est considéré comme un tzadik gamour. Alors Tosfot répond que là-bas dans Pirkei Avot, on parle du cas où si jamais il ne reçoit pas le Olam Haba ou s'il n'a pas le bénéfice qu'il espère recevoir de cette mitzvah, donc il regretterait d'avoir fait la mitzvah. Donc là, effectivement, c'est quelque chose d'une attitude négative, alors que dans cette braïta, la braïta qu'on cite ici, c'est dans le cas où de toutes les façons il fait la mitzvah, mais en même temps il espère en retirer un profit. Là, effectivement, il est considéré comme tzadik gamour. Il y a d'autres rishonim qui expliquent que ça correspond à des niveaux différents. Effectivement, il y a un niveau qui est encore plus haut que celui que la Breita décrit ici. C'est celui qui le fait complètement de manière désintéressée, sans espérer aucune récompense. En tous les cas, la Gemara demande, on voit ici que ça s'appelle une mitzvah, donc il devrait être aussi être protégé des dangers. La Gemara répond, Dilma batar devada katela yunebata. Ce qu'on craint, c'est que après avoir fini l'abdika, qu'il continue à chercher dans le tas pour rechercher son aiguille, et là, à ce moment-là, il est plus protégé, puisqu'il ne fait plus de mitzvah. Rav Nachman Bar Yitzchak Amar, Mishum Sakanat Hanochrim, Uplimo Hi. Rav Nachman Bar Yitzchak dit qu'ici, il s'agit, quand on a dit, donc il revient à la question de la Breita, qui a dit qu'il n'a pas d'obligation de rentrer sa main dans les trous et les fentes pour faire l'abdika, à cause du danger. Il dit de quel danger il s'agit. Ici, d'après lui, il ne s'agit pas d'un mur qui s'est écroulé, mais il s'agit d'un trou qu'il y a dans un mur, sauf que ce trou se trouve entre sa maison et la maison du goy, et le danger, c'est le danger du goy, et ça va d'après l'avis de Plimo, d'Etania, parce qu'on sait un Abraïta, Chor Sheben Yehudi la Ramaï, s'il y a un trou entre le juif et un goy, Bodek Admakom chez Yado Magat, Vachar Mevatel Belibo. Donc là aussi, le juif va vérifier ce qui lui est accessible, la longueur du trou, la profondeur du trou qui lui est accessible, et le reste, il fait un bitoul. Plimo Amar, alors que Plimo a dit, pardon, que il ne fait pas du tout de bdika dans ce trou à cause du danger. La Gemara demande Maï Sakana, quel est le danger? Inima Sakana Kshafi, Kishtamesh. Mais si tu dis que le danger, c'est que le goy pense qu'il fait des sorcelleries, et donc à cause de ça qu'il s'en prenne à lui, mais alors dans ce cas-là, quand il a utilisé ce trou, comment il l'a utilisé? Là aussi, il a bien utilisé, il a bien rentré sa main à l'intérieur pour rentrer éventuellement le Hametz. Donc à ce moment-là, comment est-ce qu'il a pu l'utiliser, puisqu'il y a le goy risque de le soupçonner de sorcellerie? Ma réponse à Tam qui ishtamish yemama unehora velo masikadate. Là-bas, quand il l'a utilisé, c'était pas en le jour, quand il y avait la clarté du jour. Donc là, le goy ne pense pas qu'il lui fait des sorcelleries. Acha l'Elia veshargaru ou masikadate. Alors que ici, c'est pendant la nuit et qu'il utilise une bougie. Là, c'est ce qui fait penser au goy qu'il est peut-être en train de lui faire des sorcelleries. Donc c'est pour ça que il est dispensé. Et effectivement, les poskim disent que il faudra faire l'abdika 2 jours sans bougie, faire l'abdika 2 jours, essayer de vérifier dans le trou s'il y a du chametz. L'Agmara demande va Amar Rabbi Lazar shluchem mitzvah nezokim. Donc l'Agmara pose aussi cette question contre Rav Nachman Bar Yitzchak, qui dit que le danger, c'est le danger du goy qui va penser que il fait des sorcelleries. Alors l'Agmara demande, pourtant Rabbi Lazar a dit que shluchem mitzvah nezokim, que ceux qui font des mitzvot, ils ne sont pas endommagés. Donc là aussi, il est en train de faire la mitzvah de 4 hametz. Ma réponse, Echad Eshriach Ezeka Shahane. Quand le danger est fréquent, c'est-à-dire quand il y a un réel danger, un danger concret, là, c'est différent. Effectivement, on ne compte pas sur le fait que Shochem Mitzvah Nanizokin, chez Nehemar, Yagma apporte une preuve à ce principe, parce qu'il est écrit dans le pasouk, Vayomer Shmuel, Echelech, Veshama Shaul, Varagani, Vayomer Hashem, Eglat Bakar, Tikach, Veyadecha, Vegomer. Lorsque Kadosh Baruch Hu a envoyé Shmuel pour introniser David HaMelech, Shmuel a dit à Kadosh Baruch Hu, mais comment est-ce que je vais aller? Shaul va entendre que je pars pour introniser David à sa place, alors que Shaul était le roi jusqu'à maintenant, il va me tuer. Et Kadosh Baruch Hu a accepté cet argument de Shmuel, et il lui a donné un stratagème, il lui a dit, tu vas prendre une génisse et tu vas aller faire un corban, etc. Donc il lui a donné un stratagème pour ne pas qu'il se mette en danger par rapport à Shaul. Donc on voit que même s'il allait faire une mitzvah, il allait obéir à l'ordre d'Akadosh Baruch Hu qu'il a envoyé pour introniser David HaMelech, mais malgré tout, il devait prendre des précautions par rapport à Shaul, parce que là, le danger était réel. Baoumine Merav. On a posé la question à Rav. Hane bene Berav de Daire Bebaaga. Donc c'est Talmidim qui étudie auprès de leur Rav, mais qui habite dans la campagne. Maou lemite kadma vechashocha le Berav. Qu'en est-il pour eux de venir tôt le matin, c'est-à-dire avant le lever du jour quand il fait encore noir, et tard le soir au Bet Hamidrash pour étudier? Donc de venir de la campagne, donc de traverser des endroits déserts pendant la nuit, à un moment qui est a priori dangereux à cause des mazikines, est-ce qu'ils peuvent aller au Bet Hamidrash ou pas? Amar Léou, Nitu, Alaï Val Tzavari. Alors il leur a dit qu'ils viennent. Et Alaï Val Tzavari, c'est-à-dire je prends toute la responsabilité, que ce soit sur moi et sur mon cou, c'est-à-dire je prends la responsabilité s'il leur arrive quelque chose, parce que il ne leur arrivera rien, parce que la mitzvah les protège. Nizil Maï. Alors ils lui ont posé la question, mais est-ce qu'ils peuvent retourner à l'endroit où ils sont hébergés, bon donc pour rentrer chez eux? Est-ce que là aussi ils peuvent retourner pendant la nuit, une fois qu'ils ont fini d'étudier, à Marléou ou Loyadana? Je leur ai dit, ça je sais pas. Itmar, Agmar rapporte une preuve. Itmar, on a enseigné à Mara Belazar, Belazar a dit, Shluchem mitzvah inan nizokin, lo be'alichatan ve lo be'chaziratan. Ceux qui font une mitzvah, ils ne sont pas endommagés ni lorsqu'ils vont faire la mitzvah, ni même quand ils reviennent de la mitzvah. Keman, comme qui il a dit ça? Ki haitana, comme ce tana, des tanea, ce qu'on enseigne dans la Breta, ici Ben Yehuda Omer, ici Ben Yehuda dit, klapé shamra Torah, ve lo yachmod ish et artzecha, melamed shete paratcha ro'a be'afar ve'en chaya mazikata, tarnegolatcha Mazikata. Donc, il y a un passage qui dit le Yahmod Ishetatsecha, qui parle donc de ceux qui montaient à Yerushalayim pour les trois régalim. Et donc, à ce moment-là, ils abandonnaient tous leurs maisons. Il ne restait pas d'hommes à la maison donc pour garder les terrains et garder les animaux. Et c'est écrit là-bas le passage promet, le Yahmod Ishetatsecha, personne ne touchera à ta terre pendant que tu n'es pas là. Mais de là, on apprend du fait que c'est écrit le Rahman Ish et Artecha, il y a le mot et qui est en plus, ça inclut aussi que ta vache, elle ira brouter dans les champs, et les bêtes sauvages ne feront pas de mal, tes poules iront picorer dans les poubelles, et les rats ne leur feront pas de mal. Donc ça veut dire qu'ils seront aussi protégés. Va'alot dvarim kavachomer. Et à partir de là, on fait un kavachomer, on dit Uma elush darkan nizok enan nizokin. Si déjà ceux-là, ça veut dire les vaches et les poules qui ont l'habitude d'être endommagées, donc il y a toujours des dangers qui les guettent, malgré tout, il ne leur arrivera rien. Mais Adam shendarkan nizok alachat kama vekama. De là, on apprend que, à plus forte raison, les hommes, les personnes qui n'ont pas l'habitude d'être endommagés, parce que ils ont les capacités de se garder ou parce que ils ont un malheur qui les protège, donc à plus forte raison qu'ils seront protégés. Eni là-bas l'icha, b'chazara minayin, mais ça c'est seulement quand il va à Yerushalayim. D'où est-ce qu'on sait qu'à son retour aussi, pendant son retour aussi, il est protégé? Talmud Lomar, le pasouk dit, ou panita b'voker v'alachta le'alecha, mais la mèche était là, fait imtsa ou b'shalom. Donc c'est écrit, ou panita b'voker v'alachta le'alecha, donc après la mitzvah du korban Pessah, tu rentreras chez toi. De là on apprend que tu iras et tu retrouveras ta tente en paix, donc ça veut dire qu'il ne t'arrivera rien. Donc on voit qu'au retour non plus, il ne leur arrivera rien. L'Agmara dit, mais puisqu'on voit d'ici que même au retour, il n'arrive rien, alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous dire qu'il n'arrivera rien à l'aller? L'Agmara dit, effectivement, on n'a pas besoin du pasouk pour nous apprendre que à l'aller, il ne leur arrivera rien, mais pour nous apprendre le dîne de Rabbi Ami. Rabbi Ami a dit que, de ce passouk de le Ahmad Ish et Artsecha, on apprend que c'est seulement celui qui avait un terrain en Eretz Israël, qui possédait un terrain en Eretz Israël, qui devait monter à Yerushalayim, alors que quelqu'un qui ne possède pas de terrain en Eretz Israël n'a pas besoin de monter à Yerushalayim pour le régal. Amar Rabbi Avin Baravada Amar Rabbi Yitzhak. Rabbi Avin Baravada a dit au nom de Rabbi Yitzhak, Mitnema en Perot Ginosar Yerushalayim. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de fruits de Ginosar à Yerushalayim? Alors Ginosar, c'est la région qui est autour de la Kinéret, qui avait des fruits particulièrement doux, comme la Gemara dans Megillah le dit. Et donc il pose la question, pourquoi est-ce que il n'y a pas ces fruits de Guinossar ne sont pas à Yerushalayim, puisque Yerushalayim, c'est l'endroit du Beth Amikdash, c'est la ville la ville qui a été choisie par le Kadosh Baruch Hu pour y résider. Donc comment ça se fait que ces fruits-là, ces bons fruits, ne se trouvent pas là-bas? Et la réponse, que des shelo le regalim omrim il malé lo alin ou la lechol perot ginosar birushalayim dayenu. Une tzet aliyah shelo lishma. Pour ne pas qu'ils disent que si on était monté que pour manger les fruits de ginosar de Yerushalayim, ça nous aurait suffi. Et donc, c'est-à-dire que finalement, ils risquent de monter à Yerushalayim shelo lishma, plus pour la mitzvah de aliyah la regel, mais simplement pour manger des fruits. Et donc, c'est pas bien. C'est pour ça que ces fruits-là ne se trouvent pas à Yerushalayim, mais à côté de la Kinéret. Kayot Sebo, dans le même ordre d'idée, Amar Rabbi Dostai Bar Yanaï, Rabbi Dostai Bar Yanaï a dit, Mipnei ma'en chametz virei b'Yerushalayim, pourquoi est-ce que les sources d'eau chaude de Tveria ne se trouvent pas à Yerushalayim? Kedei shelo yu ole regalim omrim, il valait lo alinu la lichotz b'chametz virei dayenu, v'nimtzet aliyah shelo ishma. Pour ne pas que les gens qui montent pour les regalim disent que si on était monté que pour ça, que pour se baigner dans les sources d'eau chaude, ça nous aurait suffi. Et donc finalement, ils vont monter à Yerushalayim que pour ça et plus pour la mitzvah. Donc pour éviter ça, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que ces sources d'eau chaude ne se trouvent pas à Yerushalayim, mais à Tveria. On revient à notre Mishnah, on a dit dans la Mishnah, Bamé Amru Shteshurot Vechule. Donc la Mishnah a commencé par dire que Kol Makom Shen Marchisim Bo Chametz Ein Tzarich Bdika, que les endroits où on ne rentre pas de Chametz, on n'a pas besoin de faire de Bdika. Et après, la Mishnah pose la question, Bamé Amru Shteshurot Bamartef. Et alors pourquoi dans quel cas on a dit qu'il faut faire la bdika de deux rangées de tonneaux dans la cave? Agma demande Martef Mandachar Shemé. Mais qui c'est qui a parlé du Martef? Qui c'est qui a parlé de la cave avant ça? Où c'est qu'on a dit que la cave était dispensée de Bdika pour qu'on pose la question ou Bama Amrouch Teshurat Bamartef? Agma dit Achikamar. Voilà ce que la Mishnah veut dire. Kol makom shana chisimbo chametz en tzerich bdika. Tout endroit où on ne rentre pas de chametz, on n'a pas besoin de faire de bdika. Ve'otzot yain ve'otzot shemen nami en tzerich bdika. Les entrepôts de vin, les entrepôts d'huile non plus, on n'a pas besoin de faire de bdika. Ou bamé amrouch teshurot bamartef, makom shana chisimbo chametz ou bemistapek. Et là-dessus, on pose la question. Donc, c'est-à-dire que, par rapport à ce qu'on a dit, qu'on n'a pas besoin de faire la bdika des entrepôts de vin, la Mishnah demande, et alors, dans quel cas est-ce qu'on a dit que il faut vérifier deux rangées de tonneaux dans la cave. Ma comme chez Machrisimbo Chametz ou Mistapek, c'est une cave où on est susceptible de rentrer du Chametz. Dans le cas de Mistapek, c'est-à-dire quand c'est une cave de laquelle on se sert pour sa consommation quotidienne. Bet Shammai Urim Shtei Shurot Vechoulé. Et dans la suite de la Mishnah, on avait une machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel. Quelles sont les deux shurot quand on a dit qu'il faut vérifier deux shurot, deux rangées? C'est quoi ces deux rangées? Et Bet Shammai ont dit, Bet Shammai Omrim Shtei Shurot Al Pene Kol HaMartef, que c'est deux rangées sur toute la surface de la cave. Alors qu'est-ce que ça veut dire deux rangées sur toute la surface de la cave? Amar Rav Yehuda Shtei Shurot Sheamru Min HaAretz VaTshmei Korah. Rav Yehuda a dit que quand on a parlé ici de deux rangées d'après Bet Shammai qu'il faut vérifier, c'est depuis le sol jusqu'au plafond. Donc c'est-à-dire les deux premières rangées, et ça veut dire sur toute la largeur et sur toute la hauteur de la cave, on vérifie les deux premières rangées, donc sur toute la hauteur et toute la largeur, donc toute la surface. Donc en réalité, si on peut dire, deux couches de tonneaux. Parce que il mettait des tonneaux donc sur toute la surface d'abord, des tonneaux sur toute la surface de la cave, une première hauteur de tonneaux. Ensuite, il empilait par-dessus une deuxième série de tonneaux, et ainsi de suite jusqu'au plafond. Et donc d'après Rav Yehuda, c'est comme ça qu'il a compris l'explication de Beit Shammai, que c'est les deux premières rangées quand on rentre dans la cave, les deux premières couches de tonneaux qu'on voit face à soi, depuis le sol jusqu'au plafond et sur toute la largeur, c'est ça qu'il faut vérifier. Rabbi Yochanan Amar Shura Achat Kemingam. Et Rabbi Yochanan dit que c'est une rangée en forme de gamme, la lettre gamma grecque, ça veut dire c'est une forme de comme le chafsoufit ou comme un R. Donc ça veut dire que tout ce qui est en face de nous quand on rentre dans la cave, donc la première rangée depuis le sol jusqu'au plafond sur toute la hauteur et sur toute la largeur, et après la rangée qui est sur toute la surface de la cave, mais en haut, celle qui est la plus haute par rapport juste en dessous du plafond, donc sur toute la surface de la cave. Donc c'est ça qui forme comme la lettre gamma grecque. C'est-à-dire que si on prend la rangée une rangée verticale et une rangée horizontale, donc ça forme comme un R. Tania Kavate de Rav Yehuda, Tania Kavate de Rav Yochanan. Il y a une braïta qui dit la même chose que Rav Yehuda, une braïta qui dit la même chose que Rav Yochanan. Tania Kavate de Rav Yehuda, Bet Shammai Omrim Shtei Shurot Al Pnei Kol HaMartef, ou Shtei Shurot Sheamru Min HaAretz VaTshmei Korah. Donc la première braïta qui va comme Rav Yehuda dit que Bet Shammai disent que Shtei Shurot Al Pnei Kol HaMartef, c'est deux rangées sur toute la cave, ou Shtei Shurot Sheamru, les deux rangées dont on a parlé, Min HaAretz VaTshmei Korah, c'est depuis le sol jusqu'au plafond. Tania Kavate de Rav Yochanan, il y a une braïta comme Rav Yochanan, Shtei Shurot Al Pnei Kol HaMartef, deux rangées sur toute la surface de la cave, à Chitsona Roa et à Petar, la rangée extérieure qui voit l'entrée, c'est-à-dire qui est face à l'entrée, Veiliona Roa et à Kora, et celle d'en haut qui voit le plafond, donc une couche horizontale sur toute la surface de la cave, celle qui est la plus haute qui voit le plafond. Chez les Fnim Emena, chez les Mata Emena, Ensarevdika. Et la rangée qui est plus à l'intérieur, donc que celle qui est face à l'entrée, celle-là on n'a pas besoin de la vérifier, et celle qui est en dessous de la rangée qui est la plus haute, qui est à côté du plafond, on n'a pas besoin non plus de lui faire de bdika. Bet Hillel Omrim Shtei Shurot Achitzonot Shehen Elyonot. Par contre, Bet Hillel a dit seulement les deux rangées extérieures qui sont les plus hautes. Et là aussi on a une machloket. Amar Rav Elyona Veshelemata Emena. Rav dit que d'après Bet Hillel, c'est une rangée, la rangée la plus haute, et celle qui est en dessous. Donc d'après Bet Hillel, il ne s'agit pas de quand on parle de Shura, c'est pas comme d'après Beit Shammai où c'était sur toute la surface, soit dans la hauteur, soit soit verticale, soit horizontale. Mais d'après Bethia, il s'agit vraiment d'une seule rangée. Donc d'après Rav, c'est la rangée la plus haute. Donc c'est-à-dire quand on rentre dans la cave, la rangée qui est en haut, horizontalement, mais qui est la plus haute, qui est à côté du plafond, et celle qui est en dessous. Shmuel Amar Elyona Veshelifni Memena. Alors que Shmuel dit la rangée qui est la plus haute, lui aussi est d'accord avec ça, mais celle qui est derrière cette rangée et pas celle qui est en dessous. Donc Maïta Amad et Rav, Agmara demande quelle est la raison de Rav, pourquoi est-ce qu'il comprend comme ça? Diek Chitsonot, parce que lui, il a été médaillé du mot Chitsonot. C'est écrit Shteshurot à Chitsonot et Elyonot. Les deux rangées extérieures qui sont en haut. Donc pour lui, Chitsonot, c'est donc les deux rangées doivent être complètement à l'extérieur et pas derrière. Et la Gemara demande va Elyonot Katané, mais c'est écrit aussi celles qui sont en haut. La Gemara dit les Maoute Tatae des Tatayata. Ça vient seulement exclure celle qui est en dessous de celle d'en dessous, c'est-à-dire pas seulement les deux premières rangées en haut et pas la troisième rangée à partir du haut. Ou Shmuel Amar Elyonot Veshelifni Memena. Alors que Shmuel dit que c'est celle qui est la plus haute et celle qui est derrière. Maïtama Diak Elyonot. Pourquoi? Parce que lui, il a été médaillé plus. Il a mis plus l'accent sur Elyonot, qui est écrit, j'te chitzonot shen a Elyonot, j'te shorot a chitzonot shen a Elyonot. Donc, celle qui sont en haut, c'est celle qui est derrière, qui est aussi la plus haute. V'a chitzona katane, mais c'est écrit aussi que c'est les rangées extérieures. M'a dit, les maoute gavayata de gavayata. D'après Shmuel, ça vient exclure seulement celle qui est encore plus à l'intérieur, c'est-à-dire la troisième rangée, à partir de celle du haut vers l'intérieur. Alors, Tosfot explique pourquoi est-ce que d'après Rav, on met plus l'accent sur Chitsonot et d'après Shmuel, plus l'accent sur Elyonot. Il dit que Rav pense que Chitsonot, comme on a dit d'abord, j'te shurot ha Chitsonot chez Elyonot, donc l'accent est plus sur Chitsonot que sur Elyonot. Donc c'est pour ça que il fait plus attention à ce terme de Chitsonot que à celui de Elyonot. Et d'après Shmuel, comme on dit Chitsonot Shehen à Elyonot, donc ça vient expliquer, on vient expliquer c'est quoi les Chitsonot, c'est les Elyonot, donc c'est pour ça qu'il met plus l'accent là-dessus. Rabbi Chiya Tané Kavate des Rav, Rabbi Chiya enseigne une braïta qui dit comme Rav, Vekulu Tanaï et Tanou Kavate des Shmuel. Mais tous les autres Tanaïm, tous ceux qui enseignaient les braïtot, enseigner des braïtot qui disaient comme Shmuel, Ve'ilcheta kavate de Shmuel, et la halakha est donc comme Shmuel. Donc la Gemara tranche la halakha comme Shmuel, mais après, il y a une grande machloket entre les rishonim, le Shulchan Aruch, lui, est posek comme Rav, parce que généralement, quand on a machloket entre Rav et Shmuel concernant un issour, la halakha est comme Rav, la halakha est comme Shmuel dans les dinim, dans dinim amonot, mais dans les issourim, la halakha est comme Rav. Et là, il y a une partie des rishonim qui pensent quand même, malgré tout, que puisque la Gemara a tranché la halakha comme Shmuel, parce que la plupart des braïtot disent comme Shmuel. Donc c'est pour ça que certains rishonim tranchent finalement comme ça. Et le Biur halakha rapporte qu'il y a beaucoup de rishonim et de geonim qui ont tranché comme ça, comme Shmuel. Donc il dit qu'il faut quand même prendre en compte cet avis.